Mesdames et messieurs, bonsoir. La RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi se sont réunis la semaine passée au Burundi dans le cadre de la Tripartite Plus. Motif, discuter des questions de sécurité commune. Il y a eu aussi dans la même semaine, toujours au Burundi, la réunion des ministres et des États membres de la communauté économique des pays du Grand Lac. Objectif, relancer cette organisation sous-régionale qui ne fonctionnait plus. Et depuis 13 ans, quel scénario ou solution probable proposer sur le plan militaire pour rétablir la confiance commune entre ces États? La relance et la CPGL peut-elle aider à rétablir la confiance dans la région du Grand Lac? Telles sont les deux questions principales de cette émission. Nous les abordons ce soir avec trois invités. Le ministre d'État chargé des relations extérieures et de la coopération internationale, M. Moussa Nyamwisi. M. Labana Lassai, professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa et professeur visiteur à l'université de Lubumbashi de Goma au Nord Kivu. Et le colonel à la retraite, Jacques Ebenga, expert militaire et ancien conseiller au ministère de la Défense nationale. Nos auditeurs nous ont dit ce qu'ils ont pensé. Au Diane Nono demande à la CPGL de respecter les décisions prises en vue de sauvegarder la vie de nos frères de l'Est du pays, tandis que Bwito de Rutshuru au Nord Kivu affirme que nos militaires sont incapables de traquer les FDLR et Interahamwe. Si les pays voisins peuvent nous aider, où en est le mal? Enfin, Freddy Makinda de Kananga au Kasaï occidental estime que la reprise de la CPGL est souhaitable, mais ce qui est à craindre, c'est qu'elle devienne un syndicat de dirigeants pour instaurer la dictature.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099 8 999 222.
Quelles sont les solutions probables proposées sur le plan militaire pour rétablir la confiance entre les pays des Grands Lacs? C'est la première partie de cette émission. À Bujumbura, la Tripartite Plus s'est clôturée mardi dans la soirée. Les chefs d'état-major des armées des quatre pays des Grands Lacs, Rwanda, Ouganda, Burundi et RD Congo, ont convenu des quatre scénarios ou solutions probables pour éradiquer les forces négatives dans la sous-région. Les chefs d'état-major de ces quatre pays ont fini par s'accorder sur la possibilité d'une intervention conjointe dans chacune des États pour neutraliser ces forces négatives. L'ambiance de cet événement avec notre confrère Serge Maéché qui était sur place.
C'est pendant 3 jours que les chefs d'état-major se sont concertés pour tenter de trouver un terrain d'entente afin de planifier des opérations militaires conjointes. La partie congolaise qui était présente par les chefs d'état-major général, le lieutenant général Christian-Pierre Tsungilala et les commandants de la 10e région militaire, le général Tsungilala, les forces d'état congolais, ont eu du mal à faire inscrire leurs positions. L'état-major général de FARC voudrait mener lui seul, à l'intérieur du pays, les opérations militaires sur le sol congolais. Pour s'en défaire de cet accord soulève toute la question du retour sur le sol congolais des états jadis agresseurs. À plusieurs reprises, les quatre chefs d'état-major des armées de la CPGL se sont retirés pour se convaincre de leur opinion. Après plus de 10 heures de réunion, ils vont sur quatre scénarios pour des interventions communes. En direct de Bujumbura, Serge Maéché, Dialogue entre Congolais.
Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aviez conduit la délégation congolaise à cette tripartite et aussi à la réunion des ministres des États des pays des Grands Lacs. Mais à travers ce reportage de notre confrère Serge Maéché qui était sur place à Bujumbura, on sent que la délégation congolaise a eu quand même du mal à faire accepter son point de vue dans la réunion des chefs d'état-major des pays des Grands Lacs.
Je crois que d'entrée de jeu, il faut d'abord lever un malentendu. La réunion de la Tripartite Plus ne s'est pas réunie à Bujumbura et je n'ai pas participé à cette réunion-là parce qu'elle était une réunion des chefs militaires. La Tripartite est une initiative que nous avons prise avec sous la facilitation américaine depuis 2 ans, qui s'est réunie tous les 3 mois dans chacune des capitales et était même déjà réunie chez nous ici à Lubumbashi. Nous avons eu la dernière réunion à la mi-mars à Kigali. C'est à l'issue de cette réunion que nous avons décidé de celle d'hier à Bujumbura entre les chefs militaires. et que donc ce n'est qu'une sous-commission de la tripartite qui s'est réunie à Bujumbura. Elle va nous donner le rapport ici à Kinshasa au mois de juin. Nous avons suivi par les voies des ondes l'ensemble des considérations qui ont été levées. Il ne m'appartient peut-être pas ici de donner mon point de vue sur une réunion pour laquelle j'aurai le rapport à bonne et due forme dans quelques jours, au mois de juin, début juin. Mais je crois que d'entrée de jeu, il vaut mieux dire que du côté congolais, il est quand même difficilement imaginable que le pays dont la présence militaire a constitué un grave problème pour notre pays puisse devenir aujourd'hui une solution. Nous avons certes fait, nous avons fait une longue marche dans le sens de la recherche de la paix dans la région. Il y a eu non seulement cette tripartite plus sous la facilitation américaine, il y a eu aussi la grande conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de Grand Lac qui a abouti à la signature des pactes de paix et de stabilité dans la région en décembre dernier, le 15. Il y a désormais aussi pour nous lieu de revisiter la CPGL qui, en son temps, elle a fait quelques réalisations visibles dans la région depuis les années 76 jusqu'à 94. Elle a fonctionné. Depuis 13 ans, elle ne fonctionne plus. Nous avons estimé qu'il fallait nous réunir à Bujumbura, les trois ministres.
Oui, ça, on va en venir, mais il y a quand même des scénarios qui ont été imaginés par les chefs d'état-major des pays des Grands Lacs qui étaient réunis à Bujumbura. Mais on va d'abord écouter un résumé de ces scénarios qui ont été conclus entre ces différents chefs d'état-major des pays des Grands Lacs avec notre consoeur Kéline Kouté.
Les chefs d'état-major généraux ont convenu que les opérations militaires contre les forces négatives sont indispensables en vue de restaurer une paix et une stabilité durable dans la sous-région. Ils ont par conséquent adopté des scénarios pour les opérations offensives devant être soumis à l'examen de la commission conjointe de la tripartite plus 1 pour adoption. Quatre scénarios ont été proposés au cours de cette réunion, à savoir scénario 1, des actions menées par les FRDC. Dans ce scénario, la République démocratique du Congo engage avec l'appui des services de renseignement des pays de la tripartite plus 1, ses forces armées pour intensifier dès maintenant et au plus tard en dehors de 2 mois son offensive contre les forces négatives basées sur son territoire. Scénario 2, des opérations séparément planifiées. Ici, chaque pays développe un plan opérationnel contre les forces négatives, mène des opérations offensives contre les forces négatives spécifiques. La collaboration et la coordination exigées avec le pays hôte pour définir les modalités pratiques d'exécution sur le terrain. Scénario 3, les opérations combinées en phase. Chaque pays développe un plan opérationnel contre ses forces négatives. Les pays décident vers quelles forces négatives lancer l'offensive en premier lieu. Les États membres coalisent leurs forces pour lancer une opération offensive contre la force négative de chaque pays en phase successive. Scénario 4, l'appel à la communauté internationale. Là, il s'agit de demander à l'Union africaine et aux Nations unies de définir un nouveau mandat plus robuste en vue de l'éradication définitive des forces négatives opérant dans la sous-région.
Monsieur le ministre, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes ministre d'État chargé des relations extérieures et de la coopération. Comment vous réagissez quand même par rapport à toutes ces solutions qui ont été proposées? Parce que nous avons un document et on voit mentionner les noms des différents chefs d'État-major de ces pays des Grands Lacs. Il y a le chef d'État-major de l'armée rwandaise, burundaise, congolaise.
Oui, c'est vrai, ils se sont réunis hier à Bujumbura. Moi-même, j'ai quitté la ville quand ils étaient encore en réunion. Et si vous avez bien suivi le compte-rendu de cette réunion, c'est que tous ces scénarios sont prévus pour adoption au Conseil des ministres, la tripartite plus 1. Et dans ce conseil, je serai même le président du prochain Conseil des ministres. Donc nous aurons le temps de donner le point de vue congolais en ce moment-là. Mais je dois vous dire d'entrée de jeu qu'on respecte le travail qui a été fait. Il nous permet d'avoir une vue qui vient de professionnels, du métier, de comment il faut mettre la paix dans le pays, comment il faut faire la guerre. Mais politiquement, il nous sera difficilement envisageable d'intégrer le scénario qui suppose que des troupes de pays qui étaient chez nous il y a quelque temps et dont la présence a causé des problèmes immenses à notre pays, à notre peuple, d'accepter qu'ils reviennent sous prétexte de venir nous aider à résoudre quelconque problème.
Mais comment cela a été rédigé sous forme de rapport alors que chef d'état-major des FRDC était là?
Il n'y a pas que ça, il y a aussi des opérations où chaque pays opérerait dans ses frontières. Il ne faut pas exclure ça. Je crois que c'est plutôt ça qui serait la meilleure hypothèse.
Avec coopération.
Et cela pourrait se faire, même nous l'avions déjà dit à Kigali, de manière concertée. On peut bien le faire en échangeant les données pour que les forces qui sont défaites dans un pays ne trouvent pas refuge dans un autre.
Mais il ne s'agit pas d'opérations militaires au cours desquelles les armées des différents pays pourraient s'entraider pour s'attaquer aux forces négatives dans un pays donné.
Je crois que pour le cas de la RDC, il faut exclure cela quand il s'agit des troupes ougandaises, rwandaises ou burundaises.
Nous avons également dans ce studio le colonel Jacques Ebenga, colonel à la retraite. Vous êtes expert militaire et ancien conseiller au ministère de la Défense. Votre réaction par rapport à ces différents scénarios ou solutions probables proposées pour résoudre la question de l'insécurité dans les pays des Grands Lacs?
Je constate d'abord qu'il y a une sorte d'aveu d'impuissance à travers ces propositions. En ceci que il est tout à fait notoire que on constate par là l'échec du plan de DDRRR de la MONUC qui avait comme objet le désarmement pacifique volontaire des interarmes et enfin des efforts négatifs. Donc si on en arrive à de tels accords, c'est que quelque part la MONUC n'a semble pas avoir donné satisfaction. Et d'autre part, le même constat d'impuissance aide également à noter dans le chef des forces armées des FARDC, qui sont en pleine organisation, ce qui est un peu pour eux une circonstance atténuante, mais au moins il y a une défaillance dans la capacité des FARDC à venir à bout de ces forces-là. Pour en venir aux scénarios qui ont été ici évoqués, je dois dire qu'aucun de ces scénarios, aucun de ces scénarios ne me satisfait. Dans tous, je vois la participation étrangère. Et comme a dit M. le ministre, il a juste raison, la participation des étrangers qui ont été quelque part également à la base des problèmes que nous avons connus dans la région. Même le premier scénario qui évoque les actions menées par les FARDC. Nous notons que ces actions doivent être menées avec l'appui des services de renseignement des pays de la tripartite. Cela suppose que on puisse laisser éventuellement venir des services de renseignement étrangers opérer chez nous pour identifier les foyers d'implantation des forces négatives. Donc même là, il y a déjà une certaine entorse à notre souveraineté que nous sommes en train peut-être de voir avec une certaine complaisance. Mais en tout cas, il y a là matière à réfléchir. Je crois que le ministre prend bonne note pour remarquer que même ce scénario-là ne nous satisfait pas parce que nous ouvrons la porte à des forces étrangères de venir opérer au titre de renseignement chez nous pour, soi-disant, donner ces renseignements aux forces qui vont intervenir conjointement dans les scénarios 2, 3 et 4.
Professeur Labana, je rappelle que vous intervenez au téléphone et vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa et professeur visiteur à l'université de Lubumbashi et de Goma. Votre réaction par rapport aux propos des invités qui sont dans ce studio, est-ce qu'il y a un danger de violation de la souveraineté du pays? Allô, professeur Labana? En ce qui on a un petit problème, on va joindre tout à l'heure le professeur Labana qui en principe devait intervenir au téléphone. En ce qui concerne les solutions probables envisagées par les chefs d'état-major généraux des forces de défense de la Tripartite Plus, Charles Murigande, ministre rwandais des Affaires étrangères, a décidé qu'il y a nécessité d'agir par rapport aux renseignements en leur possession sur les ex-combattants rwandais et burundais opérant en RDC. Charles Murigande est au micro de notre confrère Serge Maïché.
Les chefs d'état-major se sont rencontrés pour voir comment opérationnaliser les renseignements. Si les renseignements nous disent qu'il y a là un cas d'entraînement de force négative X, est-ce qu'on va seulement se contenter de la connaissance du fait qu'à Walungir existe un cas d'entraînement ou on va passer à une autre étape pour voir comment démanteler ce cas d'entraînement? Mais si on devait s'arrêter seulement à la collecte de renseignements sur les activités, cela ne nous servirait d'aucune utilité. Donc les chefs d'état-major se sont rencontrés pour voir comment commencer à opérationnaliser les renseignements qu'ils ont recueillis sur toutes ces forces négatives qui opèrent dans l'est de la RDC.
Monsieur le ministre d'État chargé de relations internationales, Mboussa Nyamwisi, comment alors par rapport au dire du ministre rwandais des Affaires étrangères, opérationnaliser les renseignements que tous les quatre pays auront recueillis. Est-ce qu'il faudrait simplement se contenter de ces renseignements ou bien il faudrait les utiliser? De quelle manière par rapport au point de vue du gouvernement congolais?
Non, il est bien entendu clair que ces renseignements doivent être utilisés pour le besoin de la paix.
Et comment?
Mais
comment?
Autant je suis un des plus volontaristes dans ce pays pour la normalisation de nos rapports avec les voisins qui ont été impliqués dans les ennuis que nous avons eus ici, autant je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas envisageable que des troupes qui ont été ici et qui ont été à la source de beaucoup de problèmes que nous connaissons puissent revenir ici, quelle que soit la raison. Je ne pense pas qu'il faille vraiment imaginer qu'à un seul moment, nous allons apposer notre signature à ce genre de documents. Mais ce qu'il y a lieu de faire, maintenant que nous avons des renseignements, nous avons une cellule de renseignements qui fonctionne, conjointe à Kisangani, avec les officiers américains qui nous assistent. Maintenant que nous avons ces renseignements-là, chaque pays peut opérer, doit pouvoir opérer à l'intérieur de son territoire. Il est certes vrai que nous avons un problème, parce que nous sommes une armée en formation. Mais j'imagine que libérer des contraintes de la transition du 1 plus 4, le Congo doit être en mesure de faire un peu plus que ce qu'il a fait. N'oublions pas qu'on vient de loin. Le Rwanda a déversé dans ce pays tout ce qu'il avait comme armée à l'époque d'Abiarimana. C'était autour de 30 000 hommes, plus quelques miliciens qu'ils avaient. Aujourd'hui, dans les rapports que nous avons, et sur lesquels nous avons opposé nos signatures, les Rwandais ne nous accusent plus des bergers qu'autour de 6 000.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire des renseignements que vous allez recueillir?
Mais écoutez, toutes les données stratégiques ne sont pas à apporter sur les médias, mais je vous dis clairement, en tant que chef de la diplomatie de ce pays, il n'est pas envisageable d'imaginer que des troupes rwandaises ou ougandaises reviennent dans ce pays sous quelque prétexte qu'il soit. Mais on peut faire tout autre chose de ces renseignements. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire. Nous avons une frontière commune de plus de 215 km avec le Rwanda. S'ils opèrent chez eux, que nous opérons chez nous. Les ennemis qui sont dans ces régions-là, ils n'auront pas où se cacher. Nous les traquerons un peu plus facilement. Autant avec l'Ouganda et le Burundi.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de Bouito, de Rutshuru au Nord Kivu, qui affirme ceci? Nos militaires sont incapables de traquer les FDLR et Interahamwe. Si les pays voisins peuvent nous aider, où est le mal?
C'est un point de vue, mais celui que je donne, c'est celui du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.
Voilà, nous indique qu'on a maintenant en ligne le professeur Labana Lassai, qui est professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa et professeur visiteur à l'université de Goma et de Lubumbashi. Vous venez d'entendre le propos du ministre des Affaires des Relations extérieures, Mboussa Nyamwisi, qui est dans ce studio. Votre réaction, professeur?
Ok, d'abord je dois m'excuser parce que c'est maintenant qu'on vient rétablir la ligne entre le studio et moi.
Je vous en prie.
Je dois vous dire sincèrement, votre question là, ce qui concerne l'échange d'informations, je crois que le cadre précis où on doit échanger les informations entre les parties, ça doit être la commission conjointe. C'est à ce niveau-là que les services de chaque État doit contribuer à mettre sur pied les informations nécessaires qui peuvent contribuer à ramener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et je crois que toutes ces rencontres constituent aux initiatives qui doivent nous amener à la paix. Et c'est dans ce cadre-là que les responsables de ces quatre pays peuvent profiter à mettre au profit toutes ces informations et surtout dans la vision de mettre sur pied la défense commune. Et cette défense commune doit fonctionner sur base des informations des partenaires pour arriver à consolider la paix, n'est-ce pas, dans la région des Grands Lacs. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs.
Merci professeur. Colonel Jacques Edibenga, je reviens à vous. Mais étant donné la restructuration qui est en train de se faire au niveau de l'armée congolaise, est-ce que vous ne pensez pas qu'au cours des réunions de chefs d'état-major de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, que nos points de vue ne puissent pas peser en raison de notre faiblesse actuelle sur le plan militaire?
Effectivement, au moment où nous sommes en train de nous organiser, nous signons des arrangements avec des pays qui ont déjà des armées organisées, ça peut constituer une faiblesse. Parce qu'en ce moment-là, la capacité opérationnelle qui est la leur dépassant la nôtre, actuellement, provisoirement, il se peut que ce soit eux qui mènent alors la barque quand il s'agit de mener des opérations. Et en ce cas-là, comme disait craignait M. le ministre des Affaires étrangères, nous risquons de subir une sorte de camouflet à nouveau, que les pays qui hier nous ont un peu bousculés reviennent sous des arrangements, cette fois-ci tout à fait clairs de la part du gouvernement congolais. Donc je crois que nous devons mettre l'accent sur la montée en puissance de notre armée. Et ça, c'est doit être avec une grande détermination. Les accords que nous passons, vous savez, ce n'est pas la première fois, je me rappelle qu'il y en a eu d'autres, où on avait dit dans 3 mois, on allait bouter les intérêts à moi et les autres dehors. Ça n'a pas eu lieu. Je ne connais pas encore la longévité de cet accord. Mais j'ai des réserves quant à ce que ce soit effectif. Peut-être Monsieur le ministre a d'autres éléments d'information que je n'ai pas, mais en tout cas, j'ai des craintes que nous ne puissions pas encore être à même de mener des opérations, et dans ce cas-là, ce sont d'autres qui les mèneront à notre place sur notre territoire, conformément aux accords. Et là, nous aurons bafoué notre souveraineté, notre fierté nationale. Il faut peut-être d'abord renforcer l'armée avant d'arriver à négocier des arrangements qui pourraient aliéner notre souveraineté de fait.
Votre réaction, monsieur le ministre?
Il est bien entendu que le fait de se doter d'une armée à même de répondre à toutes circonstances pour la sécurisation de la population congolaise et de ses biens, je crois que c'est le plus grand chantier que nous puissions avoir dans ce pays. Je ne me doute pas que les questions de légitimité résolues dans ce pays, les libérer des contraintes de la transition, de ce qu'on a appelé le 1 plus 4, nous devons nous y atteler. C'est pas impossible, d'autres l'ont fait, pourquoi on ne le ferait pas? Donc, on va se doter d'une armée, mais il faut nous laisser le temps.
Mais pour l'instant, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un peu minoré? Nos points de vue risquent de ne pas peser à cause de notre faiblesse actuelle, qui n'est peut-être pas perpétuelle sur le plan militaire.
Bien entendu, nous vivons un contexte historique connu de tous, mais je dois vous avouer que notre situation est aujourd'hui meilleure que ce qu'elle était hier.
C'est-à-dire?
Hier, nous étions un pays divisé en plusieurs petits morceaux, et les troupes étrangères étaient jusqu'à dans les profondeurs de nos forêts, de nos savanes, sur nos montagnes. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous sommes parvenus à procéder par un brassage pendant la transition, certes qui ne permet pas d'avoir une armée qui puisse agir à toute épreuve, mais quand même qui permette de pouvoir unifier le commandement qui était divisé en ce moment-là. J'imagine que se doter des troupes opérationnelles dont la logistique suit normalement, ça ne demande pas plusieurs années. Ce sont des tâches auxquelles nous allons nous atteler.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez que la RDC participe parce que c'est une politique que le gouvernement a acceptée de plein gré, ou c'est peut-être parce que nous subissons certaines pressions que nous participons à ces réunions de la tripartite plus?
Non, ce n'est pas seulement la pression par rapport aux autres. On oublie
parce
trop souvent.
Il y a quand même les États-Unis derrière.
Oui, mais c'est à notre avantage qu'ils soient là, qu'ils soient avec nous dans des discussions. Mais je crois que je l'ai dit une fois à Kigali, même dernièrement à Bujumbura, on croit que ce problème de force négative concerne les autres. Ça nous concerne en premier lieu. Qui donne la logistique à ces FDLR dans notre pays? Qui leur donne du médicament? Qui leur donne à manger? Ils pillent, ils volent, ils violent chez nous chaque jour. Donc c'est d'abord notre problème avant d'être le problème des Rwandais ou des Ougandais.
Monsieur le ministre,
nous avons le devoir d'y trouver la solution. Ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport d'abord à nous-mêmes. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de moyens de défaire l'armée rwandaise. Mais il nous faut beaucoup de mal chez nous, donc c'est d'abord notre problème.
Et vous pensez que la solution la meilleure, c'est la solution militaire telle que prônée par cette tripartite plus?
Je n'exclus aucune possibilité de faire. Une preuve, c'est que lorsqu'il a été possible d'aller à Rome pour rechercher une solution avec San Egidio, j'y ai été. Lorsqu'il faut parler de questions militaires, nous avons permis à nos chefs militaires de se réunir pour trouver la solution de ce côté-là. S'il faut le faire de manière alternative, on le fera aussi.
Colonel Ebenga, est-ce que la solution militaire est la meilleure pour rétablir la confiance entre ces différents pays de Grand Lac?
Non, quand la confiance ne s'établit pas par les voies militaires. La diplomatie, l'économie et d'autres considérations doivent entrer en jeu, c'est certain. Mais comme nous le disons ici, le ministre l'a dit avec raison que l'insécurité qui provient de ces fonds négatifs a plus d'effet chez nous que dans les pays voisins. Donc c'est à nous à chercher tous les moyens, à puiser en toutes les ressources nationales et des partenaires étrangers pour qu'on mette fin à cette insécurité.
Et la tripartite plus 1, c'est le meilleur moyen pour résoudre cette question d'insécurité dans nos frontières?
Je ne suis pas certain. Je parle plutôt, CPGL peut-être va apaiser les esprits, parce que là ce sont les relations économiques et diplomatiques qui vont entrer en jeu. Mais la question militaire, comme je l'ai dit, plusieurs accords ont déjà été signés dans le passé. Hein, figurez-vous que ce n'est pas le premier et que ça n'a pas donné. Parce que nous n'avions pas encore la capacité, nous, d'opérer chez nous comme il le faut. Et je crains que d'autres le feraient à notre place, à notre détriment chez nous.
Professeur Labana, Monsieur Yves Mampouya de Beni au Nord Kivu pose la question suivante. Est-ce que c'est pour une bonne cause que ces pays frontaliers nous tendent leur main?
Non, c'est pas. En principe, nous devons comprendre cette question dans le sens que la République démocratique du Congo, quand vous regardez très bien en se référant à la configuration géographique de notre pays, nous sommes appelés à travailler ensemble. Et chacun, chaque pays, en tenant compte de sa souveraineté, et surtout, nous avons un intérêt que la paix revienne dans notre pays. Regardez cette configuration géographique de notre pays. Si vous examinez les voies de communication, n'est-ce pas, dans notre pays, nous allons trouver que toutes les voies de communication qui servent pour l'entrée des marchandises dans notre pays et qui servent de sortie de nos marchandises à l'extérieur sont consignées, n'est-ce pas, sont focalisées ou localisées dans les pays limitrophes. C'est ainsi que nous avons besoin de travailler ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative de créer cette commission conjointe tripartite plus 1, c'est une initiative heureuse qui doit permettre d'amener la confiance entre ces États qui sont appelés à travailler ensemble, à vivre ensemble, étant donné que nous avons besoin de ces quatre pays ont besoin de nous. Nous ne pouvons pas dire que si ces pays-là viennent ici, c'est pour l'amour. Non, si ces pays viennent ici, ils ont leurs intérêts. La République démocratique du Congo a ses propres intérêts à défendre.
Voyez-vous,
en cas de la définition de notre politique étrangère, si nous regardons le principe que nous mettons en place comme cordon de sécurité pour nous, nous allons constater que la politique que nous allons mener dans la région des Grands Lacs avec nos 9 voisins sera différente par rapport aux autres États africains. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'être, n'est-ce pas, en confiance avec ces États-là. Parce qu'ils ont besoin de nous. Nous aussi, nous avons besoin d'eux. À partant de cela, nous devons chercher quels sont les moyens que nous pouvons rétablir les relations de bon voisinage avec tous ces États-là. Et cela, ça peut amener, n'est-ce pas, à stabiliser la paix ou à ramener la paix dans la région des Grands Lacs. Tout à l'heure, j'ai suivi en ce qui concerne l'armée. Moi, je crois que l'armée dans tout pays est considérée comme étant l'instrument de la politique nationale d'un pays pour défendre ses intérêts. Nous aussi, nous avons droit d'avoir une armée qui doit défendre nos intérêts le long de nos frontières, nos intérêts à l'extérieur. Mais ce que nous voulons, qu'il n'y ait pas un déséquilibre de forces dans la région. Mais il faut que, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et à la coopération internationale, nous avons droit d'abord de bâtir notre armée. Mais dans le contexte actuel, la République démocratique du Congo a besoin d'une armée de dissuasion. Et cette armée de dissuasion peut amener les autres États à prendre en considération, par exemple, les réclamations de la République démocratique du Congo, mais nous ne voulons plus que notre pays soit le théâtre des affrontements.
Voilà. Professeur, merci beaucoup. Si pour certains, la solution militaire est peut-être la meilleure, pour la communauté internationale, par contre, les échanges économiques entre les pays de Grand Lac pourraient rétablir la confiance mutuelle, d'où la deuxième partie de cette émission s'interroge. Si la relance et la CPGL peut va-t-elle aider à rétablir la confiance dans la région des Grands Lacs? Voilà, dans cette la semaine passée, s'est tenue à Bujumbura la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui s'est dégagé de cette réunion à travers cet entretien entre notre confrère Serge Maéché qui était sur place là-bas et l'une de nos consoeurs.
Dites-nous, dans quel climat se sont déroulés ces travaux?
Écoutez Karine, c'est sous l'œil de la Belgique qui était doublement représentée que se sont déroulés ces travaux. Karen De Gucht, ministre belge des Affaires étrangères, a rehaussé de sa présence aux cérémonies, ainsi que Louis Michel, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, actuellement commissaire européen. Tous étaient là présents. Il y avait également plusieurs officiels des missions diplomatiques étrangères qui sont au Burundi. Chacun s'exprimant avant l'adresse des ministres, Louis Michel et Karen De Gucht ont tenu à rassurer les États membres de la CPGL du soutien de leurs institutions à l'institution régionale des États de la sous-région de Grand Lac.
Mais Serge, quels sont les termes des accords de relance?
Il est difficile en fait de dire pour l'instant les éléments clés de cet accord. Ce qu'il faut noter, c'est que tous les trois États ont accepté de relancer la CPGL en lui donnant six priorités, dont la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et l'agriculture.
Quand est-ce que ces accords seront-ils applicables?
En tout cas, Karine, dans un bref délai, nous ont rassuré les ministres. En effet, c'est dès le mois de septembre que les chefs d'État du Burundi, de la RD Congo et celui du Rwanda pourront tenir une réunion d'évaluation du travail qu'aura abattu le secrétariat permanent intérimaire.
Et que pensent les Congolais vivant au Burundi de la relance de la CPGL?
Je vais essayer de rencontrer ici les Congolais vivant ici à Bujumbura et le président de la mutuelle des Congolais vivant ici. Je vous laisse d'ailleurs suivre ce qu'il nous a dit chez Katran, chez Matarani.
La relance de la CPGL est une bonne chose pour la région des Grands Lacs. Il y aura une bonne relation entre les pays, les gens vont circuler. Mais avant tout cela, il faut d'abord que ces relations-là soient soudées et soient basées sur une justice. Il y a deux tendances dans la communauté congolaise au Burundi. Il y a les intellectuels qui voient d'une part la création d'emplois et la relance des activités économiques. Il y a une partie de la population qui a été meurtrie et qui ne pourra pas voir l'impact de ces investissements dans leur vie quotidienne. Ils se disent que le préalable serait d'abord de présenter des excuses avant la relance des activités.
Serge, comment se sont passés les contacts entre la délégation congolaise, rwandaise et celle du Burundi?
Plutôt bien. On a vu en fait un ministre rwandais plutôt moins bavard. Son discours même était celui d'un optimisme. Charles Muringande a même encouragé qu'il y ait multiplication de telles réunions pour encourager les rapprochements entre les États. Du côté congolais, cela s'est bien passé aussi. En tout cas, il n'y a pas eu d'incident. Et même du côté burundais. Mais il faut dire quand même que pendant toutes ces assises, c'est plutôt la délégation congolaise et rwandaise qui posait problème. Les Burundis a joué plutôt à la médiation. Mais on peut dire en tout cas que ça s'est bien terminé parce que les trois États ont convenu de relancer la CPGL en donnant au Burundi d'ailleurs d'assurer le secrétariat général permanent jusqu'au mois de septembre où les chefs de l'État vont se rencontrer pour la signature ou l'évaluation plutôt de travaux qu'aura accompli le secrétariat général.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Omboussa Nyamwisi, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous attendez de la relance des activités de la CPGL?
Comme on se le disait tantôt, c'est que cette CPGL fait partie des moyens pour restaurer la confiance entre nous, parce que vous savez, lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on gagne la vie ensemble, lorsqu'on espère ensemble, on entreprend ensemble, on n'a plus de chance de vivre en cohésion, en harmonie que ceux qui n'ont aucun intérêt commun. Or, cette CPGL a permis quand même à cette région-là de se doter des infrastructures socio-économiques de grandes valeurs telles que le barrage de la Rusizi 2, qui reste la seule source d'énergie pour le Kivu, le Burundi et le Rwanda, et qui aujourd'hui ne permet plus de la desserte en électricité parce que le niveau économique s'est fortement développé, surtout au Rwanda. et que donc on a besoin de nouvelles infrastructures et on doit les négocier ensemble. C'est en ce sens qu'il devenait urgent de revisiter cette CPGL qui était aveilleuse depuis 1994, depuis 13 ans, et que donc le Conseil des ministres s'est décidé à prendre les taureaux par le corne, à se doter d'une petite structure minimale qui va devoir procéder à un état des lieux, dont le rapport sera soumis de nouveau au Conseil des ministres, pas au sommet des chefs d'État, au mois de septembre de l'année en cours. Ce n'est qu'à la suite de cette réunion du mois de septembre que nous allons projeter éventuellement un sommet des chefs d'État.
Monsieur le ministre, est-ce que, de façon simple, est-ce que vous, comment la relance de la CPGL peut aider à résoudre les problèmes, notamment de confiance dans la sous-région des Grands Lacs et même des sécurités? Est-ce que la relance de la CPGL, permettez-moi d'être un peu simple, va arrêter ceux que font les interamoués vis-à-vis de la population congolaise?
En tout cas, elle va nous renforcer à l'idée qu'il faut mettre fin à toute insécurité dans la région.
Vous pensez que cela va attirer les miliciens rwandais qui sont dans les forêts congolaises et qui s'illustrent par des exactions vis-à-vis de la population congolaise à dire alors nous arrêtons puisque les échanges économiques marchent bien entre les pays de la sous-région des Grands Lacs, nous abandonnons notre lutte armée et nous venons participer à un processus de paix?
Non, je ne pense pas que ça soit si simple. D'abord, le fait qu'on parle de cette relance voudrait dire qu'il y a quand même davantage la confiance qui renaît entre nous, parce que c'est depuis 13 ans qu'elle ne s'était plus réunie. Il faut donc reconnaître que les initiatives qui ont eu lieu avant ont permis d'en arriver à la situation où nous vous parlez des questions de coopération économique. Je n'ai aucun doute que les intérêts économiques, qui ne se limitent pas qu'aux questions énergétiques, il y a la coopération entre les universités qui sont dans la région, il faut que nos étudiants, les professeurs, ils échangent, ils tiennent des conférences ensemble. Il y a d'autres domaines tels que l'éducation, la recherche, je venais de parler de ça, les investissements, il y avait une banque qui fonctionnait, on ne le dit pas assez. Peut-être à solliciter les excuses des personnes intéressées. Moi, je connais des hôtels ici à Kinshasa qui ont été construits par le crédit CPGL. Il y a des entreprises qui ont fonctionné. Nous avons besoin d'une banque d'investissement dans la région pour la reconstruction. Je n'ai aucun doute que les intérêts économiques ne sauront pas s'accommoder avec des troubles, des milices, qu'elles soient rwandaises ou autres.
Mais alors, le problème de c'est comment vous ferez pour relancer les activités de la CPGL alors que le problème d'insécurité prévalent encore dans la sous-région des Grands Lacs?
Je dois vous dire
que c'est assez contradictoire parce que l'argent craint le bruit de bottes.
Non, bien au contraire, ce n'est pas contradictoire. Je dois vous avouer que même au temps pire de nos rapports dans la région, lorsque nous étions au plus bas, le courant électrique consommé à Bukavu, à Goma, à Bujumbura, à Kigali, était un produit CPGL. Donc, il y avait quelque chose qui a fonctionné jusqu'aujourd'hui.
Professeur Labana, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa et professeur visiteur à l'université de Lubumbashi et de Goma. Quelles sont les chances de réussite de la relance des activités de la CPGL, étant donné que le contexte politique n'est plus le même depuis la fermeture de la CPGL? Pas la fermeture, mais la suspension, peut-être la mise en veilleuse des activités de la CPGL.
Ok, nous pouvons dire qu'il y a eu un dégel, que les activités n'étaient plus relancées depuis le changement de contexte dans la sous-région. Mais aujourd'hui, si nous regardons le contexte actuel, nous pouvons dire que la CPGL peut réussir pour les simples raisons. Premièrement, et dans la région, le contexte de la gestion politique a changé et la réussite dépendra de la volonté politique des dirigeants de tous ces pays-là pour travailler ensemble, parce que la CPGL va être constituée comme étant un instrument de rapprochement entre les États qui étaient en conflit et qui peuvent travailler maintenant pour la relance de leurs économies et pour bâtir ensemble des projets de développement qui peuvent amener ces quatre pays ou ces trois pays à leur intégration. Mais je voudrais un peu revenir ici, je n'ai pas compris, disons, l'environnement de tous ces rencontres. Si nous reculons un peu en arrière, si nous lisons l'accord de paix de Nairobi, il a été dit que la sous-région des Grands Lacs va constituer 6 États dans le cadre de la relance de cette CPGL nouvelle formule, étant donné que les problèmes qu'ont connus les 3 États ou les 4 États dans la région avaient les mêmes causes et qu'on a voulu régler tout cela à partir, n'est-ce pas, de la conférence de Nairobi où tous ces États-là, plus les autres États voisins de la République démocratique du Congo ont signé cet accord de part de non-agression. Donc je disais tout à l'heure, si nous tenons que ces problèmes ne reviennent plus dans la région, il faut qu'on parte sur les bases claires dans les négociations de cet accord qui va relancer, n'est-ce pas, la CPGL. Ici, il faut comprendre que pour le maintien de la paix, de la stabilité de la paix dans la région des Grands Lacs, la CPGL, nous devons le prendre comme étant un processus qui peut partir des acquis de la CPGL. Et ces acquis de la CPGL, il y en a beaucoup. On peut partir de ces acquis-là. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, a parlé tout à l'heure du barrage qui faisait la fierté de la CPGL. Et je crois qu'on doit reformuler, n'est-ce pas, le fonctionnement de ce barrage-là pour que les États de la région puissent bénéficier des avantages de ce barrage-là.
On vous a compris, oui. Professeur. Oui. Bonsoir à Pamela Mounazo.
Bonsoir Claude Kenga.
Que disent nos auditeurs?
Jean-Charles Kirusha de Goma, dans le Nord Kivu, pose cette question. Quelle garantie avez-vous pour ne pas connaître de nouveau des affrontements armés sur le territoire national? Michel Lukoji de Lubumbashi, dans le Katanga, pense que la RDC n'a pas d'armée, c'est la meilleure solution pour chasser les soldats étrangers. Civita de Butembo, dans la province du Nord Kivu, croit que seul un dialogue rwando-congolais peut rétablir la confiance entre le peuple du Grand Lac. Et enfin, Annie de Kinshasa veut savoir de qui sont constituées ces forces dites négatives. Les FARDC ne sont-ils pas capables de résoudre le problème d'insécurité tout seuls?
Je me tourne d'abord vers vous, colonel Benga, pour votre réaction.
Bon, s'agissant des FARDC, je crois qu'on a dit assez pour dire que les FARDC sont en train de s'organiser pour faire leur devoir. Et que nous pensons qu'il serait, pendant cette phase-ci, peu prudent de signer des accords avec ceux qui sont déjà organisés parce que nous serons en position de faiblesse dans l'application de ces accords. Mais j'aimerais compléter, Monsieur le ministre et le professeur Labama, sur le fait qu'il a toujours subsisté entre les Congolais, les Rwandais et les Burundais en tant que peuple des relations très intimes. Et pour cause, quand je vais à Bujumbura, au Rwanda, et que je suis accueilli à l'aéroport par une pancarte qui dit « Ressortissant CPGL, voici votre sortie », je me dis quelque part que cette CPGL existe, elle subsiste. Et quand on considère le nombre de Congolais qui vivent au Rwanda et au Burundi, ça fait quand même des relations humaines considérables qu'il faut capitaliser, et en dehors des considérations politiques, il y a ce fond qu'il faut, je crois, ménager pour arriver à des solutions politiques.
Professeur Laban, avant de donner le mot de la fin au ministre, j'ai l'impression qu'il y a une solution militaire qui est envisagée avec la tripartite plus, et puis une solution politique avec la relance de la CPGL. Est-ce que c'est là une solution, ce sont là des solutions pour rétablir la confiance et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs? Rapidement, en une minute, s'il vous plaît.
Oh, moi, je crois que la solution politique est la meilleure, parce que celle-là va rétablir la confiance entre les dirigeants de tous ces pays-là. La solution militaire, moi, je pense que, au moins, dans le contexte actuel, ce n'est plus nécessaire. Mais je crois, en matière de la défense de la sécurité, je crois, sur le plan militaire, il faut qu'on insiste sur la défense commune. La défense commune peut amener la paix entre tous ces États-là. Oui. Mais la solution politique est la meilleure.
Le dernier mot à vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mboussania Moïse.
Moi, je formule l'espoir que toutes ces initiatives prises dans la région vont contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité pour tous, et surtout de la prospérité, parce qu'on ne le dit pas assez. Les conflits naissent là où il y a une paupérisation telle que celle que nous vivons dans cette région des Grands Lacs.
Donc il y a un espoir.
Bien entendu.
C'est par cette note d'espoir que nous terminons cette émission. Merci à son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Mboussania Moïse, qui était présent dans ce studio. Merci au professeur Labana, mais aussi au colonel Ebenga. Merci à toute l'équipe de Dialogant Congolais qui a préparé cette émission et l'équipe technique qui nous a permis de mettre en onde cette émission. Nous nous retrouverons demain. Au revoir.